Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounelle et Sidney Faux pour une émission un peu particulière aujourd'hui. On va faire les choses à l'envers par rapport à l'habitude. D'abord parce qu'en deuxième portion d'émission, en sandwich, dans le fond, on va avoir Rudy Camacho, défenseur ou peut-être qu'il faut dire milieu de terrain de l'Impact de Montréal maintenant comme invité. Et bien évidemment, on veut commencer avec notre segment en temps additionnel qu'on fait d'habitude après notre segment à domicile en raison des tristes événements, des tristes nouvelles venues d'Argentine cette semaine. D'abord, Jean, Sid, je vous souhaite la bienvenue. Toujours un plaisir de jaser avec vous.
Merci, merci.
Maradona a 60 ans qui décède. Bon, c'est des complications qui sont survenues après son opération. C'était au lendemain, je pense, de son 60e anniversaire pour un caillot au cerveau. Beaucoup a été dit. Beaucoup a été écrit, Jean, sur Diego Maradona, sur sa carrière, sur la tourmente qu'il a vécue aussi, que ce soit sur ou en dehors du terrain, parce que ça a été un gars qui a vécu des montagnes russes d'émotions et d'aventures au cours de sa carrière. Et Jean, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce qui ressort de tout le monde, c'est qu'il y a le joueur, mais il y a l'entourage, il y a l'environnement du joueur, puis les deux, à quelque part, sont indissociables.
Oui, complètement. Complètement. Et depuis le début, je crois que c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a pu voir ou lire sur lui, c'est que Maradona a, et le Maradona qu'on connaît, qu'on a vu évoluer, grandir, a continuellement été le produit de tout son environnement. Tout petit, quand il apparaît sur la scène, il vient d'une extrême pauvreté. Quand il arrive dans les équipes juniors à Argentinos Juniors, les dirigeants sont persuadés que ce n'est pas vrai, il n'a pas 8 ans, il a pris tous les papiers pour arriver à le prouver, simplement parce que il est mal nourri, il est rachitique, pas bien développé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, ils vont lui donner des médicaments, ils vont lui donner des piqûres, des médicaments à prendre pour le remettre un petit peu en santé. Et qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée, je ne vais certainement pas dire qu'il s'agit d'un début de dépendance, mais certainement d'une confiance quand on va lui donner des choses, par exemple, dire c'est pour ton bien. Et lui, il va le prendre très, très facilement. Il va devenir ensuite le joueur tout jeune, à 11 ans, à Argentinos Juniors encore. On va lui demander d'animer la mi-temps des matchs de l'équipe première, de l'équipe professionnelle. Et il est dans le rond central, il fait des jongles pour tout le public. Il devient, dès cet âge-là, il devient habitué et quasiment demandant même de cette affection et du public. Et toute sa carrière va être comme ça. À Barcelone, quand il arrive, c'est le premier gros, gros transfert. À l'époque, c'est le plus gros transfert de l'histoire. Mais à Barcelone, eh ben, il est tout seul. Et là, il arrive où il découvre comme l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il est payé. Il est payé, on a investi des sommes énormes, il doit produire. Mais il est tout seul à Barcelone. Il n'y a personne avec lui à ce moment-là. Hein. Et c'est d'ailleurs là qu'il commence à tomber dans la cocaïne, etc. Mais bon, bah, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend à se débrouiller tout seul, malgré tous les problèmes. Et en fait, toute son histoire, c'est un petit peu ça. Hein. C'est l'environnement qui va former et continuer de former Maradona. Quand il arrive en Italie, déjà en Espagne, mais encore plus en Italie, il tombe sur des systèmes extraordinairement organisés, défensifs, et qui sont faits pour le contrer. Et à l'époque, quand on parle de le contrer, qu'on parle de défenseurs, les défenseurs, ils ne sont pas choisis parce qu'ils sortent bien le ballon et qu'ils sont propres. Hein. C'est parce qu'ils vont dedans et puis il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Eh ben, il va trouver des pour éviter, pour ne jamais, pour essayer de limiter les contacts et les risques de blessure, parce qu'il en a pris. Il a pris plus de coups que 99,9% des joueurs de l'époque ou même plus tard. Donc, tout Maradona, toute son histoire, c'est toujours en fonction un petit peu de ce qu'il y a autour de lui, de l'environnement. Et l'environnement qui n'a pas toujours été super propre. Et d'ailleurs, à Naples, eh ben, il y a cette ambivalence. Il y a Naples qui l'adore, qui en fait une divinité, qui en fait quelque chose de totalement extraordinaire. Et puis, il y a les relations beaucoup plus louches, beaucoup plus sombres, disons, qui vont précipiter un petit peu des problèmes, que ce soit de santé, d'isolement, etc. Donc, Maradona a toujours été, et je pense que c'est un des éléments pour le définir, c'est vis-à-vis de cet environnement.
C'est super intéressant. Ce que Jean dit, c'est de surtout la partie sur son plus jeune âge où on veut le mettre en valeur. À quelque part, on veut le voir performer entre guillemets. Et j'ai l'impression que toute sa vie, il y a toujours eu quelqu'un autour de lui qui tirait la couverture et qui voulait un morceau de Maradona. Maintenant, ben, ça va se transformer en icône, en image. Écoute, le merchandising qui va se faire autour de Maradona, tout ce qui va se produire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ça va être hallucinant. Et cette image-là, si je parlais d'indissociable entre son environnement et sa personne, ben, il y a sa carrière et l'image de sa carrière. T'sais, juste les photos qu'on voit passer depuis son décès. Premièrement, y a-tu quelqu'un sur la planète à part nous trois qui n'a pas une photo avec Diego Maradona? J'ai l'impression que tout le monde en a une. Ça montre à quel point, tu sais, il a fait la tournée, il était généreux de sa personne, peut-être au détriment de sa personne aussi, mais l'image, vraiment là, au sens large, c'est quelque chose qui avait une place hyper importante dans la vie de Diego Maradona, puis qui va continuer de l'avoir aussi.
Oui, tout à fait. C'est un produit culturel. C'est une personne qui représente et qui symbolise tellement, tellement de choses à différents niveaux. Il faut juste parcourir les rues de Naples pour s'en rendre compte, où on voit des portraits, des fresques. Et c'est fou à quel point il est imprégné. On parle d'une religion à son nom. Il y a la symbolique du numéro 10. Est-ce qu'il y en a un qui a porté le numéro 10 d'une façon aussi grandiose que Maradona? Je pense que Pelé incarnait l'excellence footballistique, mais ce que incarne Maradona, c'est pas forcément au-delà, mais tellement différent dans l'imaginaire collectif et ce qu'il a réalisé à Naples, comme le dit Jean, de ces années, comme de 84 ou 85 jusqu'à seulement 91 et sa chute. Mais c'est fou. C'est fou, Naples n'avait jamais gagné le Scudetto. Naples n'avait même jamais même concurrencé ou espéré aller gratter quoi que ce soit au Torino, à Milan, à la Juve. C'est ce qu'il a fait dans la symbolique du nord contre le sud, des pauvres contre les riches, des opprimés contre l'oppresseur. Voilà, c'est fou. Et Maradona, toute sa vie, en fait, est folle. C'est ça sa carrière sportive, au-delà même de sa vie, est folle. Des personnes ont aussi, parfois, comme on voit, le hors-terrain qui est parfois différent de ce qu'on voit sur le terrain. Mais c'est, voilà, c'est lui, c'est prendre le ballon comme il le prenait, virevolter comme il le faisait, aller au contact, aller au dribble, se battre. Je veux dire, pour moi, comme Barcelone, c'est la bagarre générale contre Bilbao. J'ai même pas en image un but, mais j'ai cette bagarre générale. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est une personne entière, passionnée et vraiment très différente, comme d'un individuel en un sport collectif, celui comme la Coupe du Monde 86. Oui, on parle beaucoup d'Argentine-Angleterre, mais allez voir Argentine-Belgique. Comme une personne qui décide de gagner un match et gagner après une Coupe du Monde, c'est hallucinant. Il est passé à quoi? À un penalty des Allemands de faire deux Coupes du Monde de suite en 90 et battre l'Italie à Naples en 90. Mais sa vie est un film. Et d'ailleurs, comme la culture lui rend bien, puisque de nombreux documentaires, de films, d'œuvres sont consacrés à lui, mais il est tellement spécial. Je pense que malheureusement, comme souvent, c'est après la mort qu'on s'intéresse encore plus à quelqu'un et qu'on plonge dans sa vie et qu'on réalise et que je suis coupable de ça, parce que je me suis tapé tous les buts qu'il a marqués à Naples. Je me regarde genre comme toutes sortes de choses et je me dis, mais waouh, il y en a combien des Maradona? Genre, comme on parle vraiment de Jordan, de Ali, justement de Pelé et de Maradona, puis je dis, c'est fini pour le reste. Il n'y a personne qui atteint ces statuts-là. Et on le voit avec ses funérailles de 3 jours qui ont lieu en ce moment en Argentine. On le voit dans tous les hommages, on le voit dans toutes les photos. C'est le joueur préféré de tout le monde. Non, c'est très, très spécial. La symbolique culturelle, c'est la culture foot. J'ai pas peur de le dire. il représente dans son imagerie, tout le monde le voit, le maillot habit céleste, les petits shorts noirs, quand il son mouvement qui est aussi symbolique finalement que le dunk de Michael Jordan, c'est une image, c'est quelque chose, Maradona, c'est fou de voir, de constater à quel point il a touché autant de monde dans la terre.
En parlant des documentaires, Sid, tu me fais une belle passe sur la palette parce que j'ai vu que sur RDS2, dimanche soir, 19h30, on va présenter un documentaire sur la vie de Diego Maradona. Donc, à surveiller si jamais vous n'avez pas vu ce documentaire-là encore. Jean-Sid vient de nous énumérer, juste comme ça, j'ai l'impression que la liste pourrait encore faire des heures et des heures. Quelques événements marquants de la vie de Diego Maradona, tu sais. Je pense qu'on saisit mal l'ampleur de la pression qu'il y avait sur les épaules d'un gars qui a été signé à Naples. On a dit à ce moment-là que c'était la ville la plus pauvre d'Italie qui se payait le joueur le plus riche, le plus dispendieux sur la planète. C'était aussi une époque où je pense que dans les journaux, à ce moment-là, on disait il n'y a pas de maire à Naples. Les écoles sont tout croches. Les services publics, c'est pourri. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de transport en commun qui a de l'allure, mais c'est pas grave. On a Diego Maradona. Et là, d'être capable de prendre cette pression-là, les attentes qui viennent avec, dans un stade à São Paulo où tu as 70-75 000 personnes qui attendent Maradona. Tu sais, cette photo-là de Maradona qui monte les marches au stade à Naples. Mm-hmm. Ça, c'est, il n'a jamais foulé le terrain encore une fois. Là. Il est en jeans, en T-shirt. La quantité de photographes qui sont là, tu dois avoir 100 photographes qui sont empilés les uns par-dessus les autres pour avoir la photo de la première fois où Maradona, avec sa grosse crinière, lève les yeux puis voit ce qui l'attend et les attentes qu'on a envers lui, de savoir qu'il prend ça puis qu'il dit « Inquiétez-vous pas, je vais vous l'amener votre premier Scudetto. » Qu'il fait, il va en chercher un deuxième, une coupe UEFA. Écoute, juste là-dedans, dans ce que je viens de dire, puis c'est une infime partie de sa carrière à quelque part parce que tu comptes pas l'Argentine, ces moments-là, écoute, tu ferais une liste de 150 joueurs, tu n'arriverais même pas proche des moments qui ont marqué la carrière de Diego Maradona.
Non, c'est sûr. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, la façon dont tu dis, c'est oui, il a concentré en l'espace de quelques années des milliers d'expériences. Et c'est ça qui est incroyable. Et ce dont tu parles à Naples et dont Sid a parlé aussi, tu vas le sentir. Et je pense que moi, c'est un des moments les plus forts que j'ai vu de Maradona. C'est pas un moment de jeu. C'est la demi-finale de Coupe du Monde 90. C'est à Naples contre l'Italie. Donc à Naples, il est chez lui. Et quelque part, il est encore persuadé que Naples, parce que c'est Naples, parce que c'est l'opposition face à même cette Italie qui va jouer, mais c'est l'Italie du Nord quand même. Hein. C'est un ennemi quelque part. Et il est persuadé que Naples, au fond, va être avec lui. Et au moment de l'hymne argentin, c'est sifflé. Et il y a des grandes banderoles, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des banderoles qui disent « Diego, pardonne-nous, mais aujourd'hui, on est italien. L'Italie, c'est notre patrie. » Et il pleure.
C'est ces moments-là, c'est vrai ce que Jean dit à quelque part. Il y avait toujours une émotion attachée. Et quand j'ai discuté avec les gars du 5 à 7 cette semaine, c'est ce que j'ai dit. La première chose qui me vient en tête, c'est les émotions qu'il a fait vivre, les bonnes et les moins bonnes, les émotions que lui a vécues. Et à quelque part, c'est ça qui propulsait le joueur parce qu'il n'y avait jamais rien qui était au beau fixe avec Diego Maradona. Puis j'irais même plus loin, c'était toujours 100% ou zéro. T'sais, le juste milieu, là, Diego Maradona n'a jamais connu ça.
Non, effectivement, je parle d'émotions. Je vais aller dans une tranche de mon enfance. Maradona, c'est la première personne dont j'ai vu mes parents avoir peur. Mes parents sont camerounais et pour moi, voilà, Italie 90, c'est Cameroun-Argentine, match d'ouverture du mondial. Et j'étais tout petit, de voir mes parents véritablement terrifiés de ce petit bonhomme d'1m65 et se dire qu'on va prendre la raclée du siècle face à l'Argentine, championne du monde. Ma première peut-être émotion de foot finalement, je pense d'ailleurs, même si j'ai quelques souvenirs de Marseille juste avant qui perd la Ligue des Champions, mais c'est lié à Maradona, c'est ce petit bonhomme là et qui juste après le protocole, il prend le ballon d'une façon maradonesque, il le soulève et il se met à faire des jongles et je te dis mais c'est quel extraterrestre, c'est fou. On partage souvent cette séance en demi-finale contre le Bayern Munich, où il, voilà, comme avec Life is Life, c'est, il avait un amour du ballon, on le voit jongler parfois des balles de ping-pong, des oranges, des balles de tennis, c'est, je veux dire, aller voir ses coups francs, il en a marqué environ 60 dans sa carrière, c'est vraiment dans le top 3 des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football, mais il y a des coups francs, il y a un coup franc contre la Juve qui est dans la surface de réparation, où il te soulève juste le ballon, mais il fait des choses hallucinantes, et c'est ça, c'est, je pense qu'on parfois on oublie aujourd'hui dans le foot moderne, très orienté sur la statistique, la performance, que le football est un vecteur d'émotion avant tout. Et pourquoi il n'y a peut-être pas d'héritier genre, comme de Maradona, parce que genre, comme j'ose le dire, genre, comme pour moi, Messi n'est pas l'héritier de Maradona, malgré toutes les similitudes, c'est cette émotion-là. Peut-être que Ronaldinho est peut-être genre, comme celui qui a réussi à aller chercher quelque chose en termes d'émotion, d'amour pur du football, et de donner pour donner. Parce que c'est ça, Maradona. Maradona, c'était une générosité, genre, comme Jean l'a dit tantôt, qui est folle, qui est débordante, qui est contagieuse, et qui fait que finalement, on est tous pour lui, même quand on est contre lui. Donc, c'est un personnage fascinant, un personnage très fascinant.
Je veux juste ajouter un petit quelque chose sur le commentaire que tu as fait sur ses habiletés techniques avec le ballon. Je regardais des images, je regardais des photos, tout ça avec, là c'est un commentaire très niché, là, mais avec des souliers Puma, avec une languette à peu près épaisse comme ça. Écoute, chapeau, juste pour ça Diego Maradona. C'est extraordinaire. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de m'arranger pour que les languettes de mes souliers ne me dérangent pas. Puis lui, c'était « Ah ouais, je vais être capable de dominer la planète au complet avec les languettes dans les jambes. C'est pas plus grave que ça. » Jean, peut-être une petite minute parce qu'on va passer à Rudy Camacho bientôt, mais je voudrais t'entendre sur le genre de joueur qu'il est. On en parlait avec Sid avant d'entrer en onde. C'est le genre de joueur qu'on voit plus maintenant avec l'initiative individuelle. Peut-être que Cristiano Ronaldo, surtout au début de sa carrière, ressemblait un peu à ça. Donnez-moi le ballon, puis je vais m'en occuper. Mais il n'y a personne qui s'approche de ce que Maradona faisait, puis on a l'impression qu'on n'en verra peut-être plus jamais des joueurs comme ça.
Non, c'est certain, parce que, comme Sid le dit, il avait une maîtrise du ballon qui était incomparable et que personne n'avait avant et n'a eu après, éventuellement peut-être, Garincha, pour ceux qui peuvent, qui savent un peu qui c'était, mais il n'y a pas un joueur qui avait cette et le ballon existait parce que c'était le centre de sa vie et son but, mais c'est comme s'il n'existait pas parce que il l'accompagnait tout le temps et puis il faisait d'autres choses en même temps. Il y a cette fameuse séquence dont Sid parle là face au cette mi-temps, cette avant-match face au Bayern. Tu le vois qui jongle, à un moment il envoie le ballon en l'air, très haut en l'air, et puis il fait autre chose à côté, hop, le ballon va retomber. Donc une connaissance déjà au départ il mesure instinctivement le temps que ça va prendre, la distance, etc., où il est placé. Et dans ce qu'il faisait ses matchs lui-même, il était capable d'inventer des choses continuellement et de savoir tout le temps ce qui se passait toujours autour de lui. Un autre élément moi, que je retiens, c'est le but, évidemment, 90 contre le Brésil, but qui élimine le Brésil, domine tout le match. Il tire sur la barre, il y a des arrêts de Goycochea, l'Argentine est archi dominée. 4 minutes de la fin, il y a un ballon qui revient en contre, il le prend dans le rond central. Il a pris la photo de tout ce qui se passe autour et il va partir, il prend le ballon, il va partir, il va emmener 4 joueurs avec lui. Il sait déjà, dès qu'il a pris le ballon, il sait comment l'action va se terminer. Il va emmener les 4 défenseurs au dernier moment, au moment où les 2 derniers défenseurs vont commencer à bouger vers lui. Il décale Caniggia, but, c'est un des plus gros hold-up de l'histoire de la Coupe du Monde et l'Argentine passe. Mais voilà, c'est ça, c'est une quasi, conscience de tout ce qui existait sur le terrain. Et le ballon en étant une partie, mais le ballon, il le domestiquait tellement facilement que c'était son ami. Il venait avec lui. Voilà. Lui, il s'occupait de tout ce qui se passait autour. Et puis, hop, changement de direction, hop, accélération, deuxième accélération, troisième accélération aussi, parce que physiquement, il était encore capable de faire ce genre de choses-là. C'est là qu'il était magique. C'est là qu'il était capable de faire rêver, de dire « mais c'est incroyable ce qu'il est incroyable ce qu'il fait là
». Merci les gars d'avoir partagé ça, puis surtout merci Sid d'avoir partagé la première fois que tu as vu tes parents avoir peur en regardant un match de foot. Ça fait une petite tranche de vie de chez les Faureaux qu'on apprécie énormément. Les gars, on se retrouve tantôt pour nos sujets chauds. Pour notre segment à domicile, j'allais dire en temps additionnel, je suis habitué à l'ancien ordre, l'ordre plutôt classique de Loin de s'en foutre. À domicile, on a le grand plaisir d'être rejoint par, je le disais en début d'émission, le défenseur, mais il faut peut-être dire milieu de terrain maintenant de l'Impact de Montréal, Rudy Camacho. Merci beaucoup de prendre le temps avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Je voudrais t'entendre, évidemment, on va parler de la dernière saison, de ce que tu as vécu en série, parce que ça a été un rôle franchement particulier que Thierry Henry t'a demandé au milieu de terrain. Mais d'abord, je voudrais t'entendre sur Diego Maradona. J'en ai parlé avec mes collègues tout à l'heure. Comment tu as réagi d'abord à l'annonce de son décès? Et Maradona, pour toi, qui fait une carrière dans le foot depuis longtemps maintenant, il représentait quoi?
Ouais, comme tout le monde, un peu voilà, beaucoup de tristesse, parce que c'est quelqu'un qui nous a inspiré. Voilà, on regarde encore ses vidéos aujourd'hui, alors que ça fait un moment qu'il a arrêté sa carrière, et je pense qu'on regardera ses vidéos pendant longtemps. C'était un magicien, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc voilà, c'est triste. Après, c'est comme ça, il a eu beaucoup de problèmes en dehors du football, et voilà, je pense que le football se souviendra de lui pendant longtemps.
J'aimerais que tu me parles un peu de l'entourage, parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est difficile de dissocier Diego Maradona, le joueur, de tout ce qui venait avec en dehors du terrain. Parle-moi, je ne sais pas si c'est à travers ton expérience, peut-être celle de coéquipier que tu as croisé dans ta carrière jusqu'à maintenant, mais l'importance de cette structure-là, de l'environnement, de l'entourage d'un joueur pour s'assurer que quand les moments deviennent difficiles ou quand il y a de la tentation, je parlais avec Rod Fanny il y a quelques mois, puis il me parlait de toutes les distractions qui peuvent survenir quand tu commences dans le monde professionnel et les pièges que ça peut représenter. Qu'est-ce qui est le plus important pour un joueur pour éviter de tomber dans le côté un petit peu plus sombre?
Ouais, après, c'est important, la stabilité, c'est la famille, c'est les enfants. Mais on est tous différents, c'est dans la tête que ça se passe. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de stabilité non plus. Donc, je ne connais pas la vie de Maradona, je ne connais pas la vie de certains joueurs. Mais c'est clair qu'en tout cas, pour ma part, voilà, pour ce que je veux dans ma vie et la stabilité que je veux, et pour être performant sur le terrain, je pense qu'il faut être accompagné, il faut avoir une famille, des enfants, il faut être posé dans sa tête. Et un bon entourage. Donc ça passe par la famille, ça passe par les amis. Et après, c'est à nous aussi de faire les bons choix et s'entourer de bonnes personnes.
Je trouve ça intéressant, Rudy, que tu soulignes les enfants. Est-ce que quelque chose, je pense à Samuel Piette, là, qui vient de devenir papa pour la première fois cette année, est-ce que quelque chose qui a changé dans ta carrière sportive entre l'époque pré-enfant et une fois que tu étais devenu père?
Oui, c'est là où j'ai signé mon premier contrat pro la première fois que j'ai eu un enfant, donc peut-être que ça a changé quelque chose, je sais pas, en tout cas, j'étais stable avant aussi, donc après, comme je vous ai dit, ça dépend des personnes, à 20 ans, j'étais toujours avec ma femme d'aujourd'hui, mm-hmm. Et voilà, ça dépend de plein de choses, moi j'ai toujours voulu ça, j'ai toujours voulu cette stabilité, après c'est clair que quand on rentre à la maison, qu'on a fait un mauvais match ou qu'on n'est pas bien, bah, les enfants, ça redonne le sourire, ça fait oublier certaines choses. Donc, c'est important.
Bon, j'aimerais faire un petit retour, évidemment, sur la saison qui n'est pas terminée pour vous. Vous avez l'Allée des champions à jouer à la mi-décembre. Quand je réfléchissais à notre entretien d'aujourd'hui, il y a les propos de Bakary Sagna qui me sont venus en tête. Puis là, je vais nous amener un peu champ gauche avant de parler de soccer. L'année passée, j'ai demandé à Bakary qui est le mieux habillé chez l'Impact de Montréal. Puis t'es celui qui est sorti en premier. Bakary m'a dit c'est Rudy Camacho, il est toujours bien sapé, il est toujours bien habillé. Comment le fashionista en toi a vécu l'année 2020 où je présume qu'aller dans les magasins, c'était pas tout à fait la même chose que d'habitude?
Ouais, mais Bakary vous a dit ça parce qu'il pouvait pas se citer, je pense.
Mais quand même, numéro 2 derrière Bakary Sagna, c'est pas trop mal?
Non, j'essaie de bien m'habiller, j'aime bien la mode, mais pas plus que ça, je passe pas mes journées dans les magasins. Non, ça m'a pas trop dérangé, j'aime bien être relax aussi et sur vêtements, donc cette année ça m'a pas trop dérangé, puis on dépense moins, donc c'est pas plus mal non plus, et voilà, après, tout ce qu'il y a à côté, c'est vrai que c'est long et embêtant, toute cette période,
c'est compliqué pour moi. Tu parles de survêtements, je présume que tu as eu l'occasion d'en porter en masse. Je faisais le calcul, je pense que c'est votre sixième quarantaine cette année. Est-ce que vous avez des nouvelles d'un retour potentiel à l'entraînement? Je sais qu'on attend la santé publique. Vous en êtes où en ce moment dans ce que vous savez sur le retour à l'entraînement ici à Montréal ou peut-être l'obligation d'aller aux États-Unis?
C'est assez incroyable. On attend l'autorisation du Québec, je crois. Le dernier mail qu'on a reçu, c'est il y a 2 jours. Voilà, le club essaye de nous tenir au courant. Je pense qu'ils n'ont pas plus d'informations non plus. Donc, on a eu la confirmation du Canada, ce que j'ai compris, pas celle du Québec. On attend cette confirmation pour pouvoir s'entraîner, mais c'est vrai que là, ça fait une semaine sans rien faire, enfin, des petits exercices à la maison. Pour ma part, je suis encore à l'hôtel pour cause de travaux à la maison, donc je suis à l'hôtel encore. C'est compliqué, ça fait six quarantaines, comme vous l'avez dit, ça fait beaucoup de préparation physique aussi, entre guillemets. C'est une année compliquée, voilà, on continue de s'adapter, il reste une dernière ligne droite et c'est long, mais c'est comme ça.
Es-tu à l'hôtel à Montréal depuis le début de l'année? Est-ce que tu as passé toute ton année 2020 à l'hôtel aux États-Unis ou ici?
J'ai passé la plupart du temps à l'hôtel, mais non, à Montréal, c'est pour cause de travaux. J'ai des travaux chez moi, donc depuis qu'on est revenu de New York, je suis à l'hôtel encore à Montréal.
D'accord. Parle-moi de ton dernier match, le match que vous avez joué en série. Bon, évidemment, l'absence de Victor Wanyama, Samuel Piette, ça fait en sorte que Thierry Henry est à la recherche de solutions au milieu de terrain. Cette solution-là est passée par toi. J'ai été surpris d'entendre Thierry dire que tu avais une formation de milieu de terrain. Personnellement, je l'ignorais. Ça va jusqu'où ou ça se résume à quoi, cette formation-là de milieu de terrain, en plus de celle de défenseur central? As-tu joué chez les pros, milieu?
J'ai pas de formation en tant que milieu. Après, j'ai déjà été amené à jouer au milieu de terrain 2-3 fois dans mes anciens clubs. Quand j'étais très jeune aussi, je jouais comme un peu tout le monde, hein, devant et au milieu de terrain. Après, non, j'ai pas spécialement de formation, mais le coach a voulu dire que j'ai déjà joué à ce poste et que et je pense avoir certaines qualités pour pouvoir dépanner à ce poste. Donc ils ont opté pour cette solution-là. On m'en avait parlé aussi un peu quelques temps avant. On m'avait fait comprendre que c'était possible que je joue en 6. Et voilà, ça ne me dérange pas plus que ça.
Ton expérience, ça a été comment? Je pense que de l'extérieur, on a vu que c'était 75-80 super bonnes minutes. Après, ce n'était pas la qualité, mais plutôt les jambes qui devenaient plus compliquées. Comment tu as vécu ce match-là?
C'était dur à partir de là, à 70e. Ça devenait compliqué et ça s'est ressenti sur la fin d'ailleurs. Ça s'est ressenti sur la fin. Après, j'ai essayé de couvrir beaucoup de terrain, essayer d'aider ma défense et en même temps faire le relais avec l'attaque, de jouer simple. Et voilà, c'est vrai que j'ai couru beaucoup. J'ai dû courir entre 12 et 13 km. Sur la fin, ça a joué et voilà, sur le dernier but, j'attrape une crampe sur le dégagement. Donc, je ne me relève pas tout de suite et je suis en retard sur la frappe. Les 20 dernières minutes étaient compliquées. Mais bon, c'est comme ça, on a essayé de tout donner et voilà.
La saison, comme je le disais tout à l'heure, de manière générale, n'est pas terminée. Reste la Ligue des champions, match retour, quart de finale à jouer. C'est un match qui va jouer le 15 décembre à Orlando. Maintenant, on ne fera pas un bilan complet de la campagne, mais peut-être de la saison MLS. Comment tu évalues personnellement la saison 2020, même si c'était tronqué, on l'a dit tout à l'heure, tronqué par plusieurs arrêts et nouveaux départs?
C'est une saison la plus compliquée de ma carrière. Pas bien sûr individuellement aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, de mon point de vue personnel, c'est une saison frustrante parce que je finissais les matchs frustré, je faisais des bonnes performances, mais il y a toujours une erreur qui venait gâcher toute ma performance. Donc c'est une saison vraiment frustrante au niveau personnel et au niveau collectif. C'est la pire saison que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant. Voilà, on a été loin de nos familles pendant pratiquement toute l'année, à l'hôtel, dans notre chambre, tout seul. On n'est même pas à deux, on est tout seul. Donc, C'était très, 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 très dur psychologiquement. Voilà, par exemple, après un match, quand on fait une erreur et qu'on n'est pas bien, et ben, on rentre dans notre chambre, on est tout seul, il n'y a personne. Donc, faut être fort mentalement, faut se remettre dedans le lendemain directement. C'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà, pour toute l'équipe. Et aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, il va falloir qu'on soit costaud. C'est encore compliqué aujourd'hui, on est en quarantaine depuis une semaine. Et voilà, c'est une année où on a appris aussi, on a été solidaire, ça a soudé le groupe aussi, je pense, sur pas mal de choses. Et j'espère que ça nous servira dans le futur.
Je t'entends parler de la pandémie, évidemment, ça fait écho à ce qu'on entend d'à peu près tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, pas juste à l'Impact, mais partout en MLS. Comment cette pandémie-là a affecté ta manière, tu as 29 ans en ce moment, comment cette pandémie-là a affecté ta manière de voir les prochaines années de ta carrière? Il te reste un an de contrat avec l'Impact en 2021. On a vu Saphir Taider quitter l'Impact avant la fin de son contrat parce que pour sa famille, il aimait mieux aller jouer ailleurs avec une offre évidemment qui est venue puis qui rendait ça intéressant pour lui et pour le club. Je parlais avec Rod Fanny, il m'a dit la même chose. Pour regarder la suite, ben, il y a quelque part l'influence de 2020 qui a été très difficile. Boyan a à peu près les mêmes commentaires. Pour toi personnellement, comment cette pandémie-là a affecté ta façon de voir les prochaines saisons?
Bah, les prochaines saisons, je ne sais pas. Pour l'instant, je me projette sur la prochaine saison et c'est vrai que on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai entendu, je crois qu'au basket, Toronto allait déjà jouer la prochaine saison à l'extérieur. Je sais pas si, enfin, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'on se dit que si on doit partir aux États-Unis, laisser notre famille encore une saison, ça fait peur. Après, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être qu'on pourra jouer devant nos supporters. Je ne sais pas. Qu'on pourra jouer à domicile. Qu'on devra partir à New York encore une fois pendant des mois et des mois. Pour l'instant, je pense qu'à la saison prochaine et je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien. On verra bien. Je peux pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que
Je sais que c'est.
ça fait poser beaucoup de questions et oui, ça fait peur.
Je sais que c'est très difficile de s'imaginer un retour à la normale avec tout ce qu'on a vécu cette année, mais si on était pour revenir à quelque chose, à un semblant de normalité en 2021, est-ce que tu te vois à Montréal au-delà de la prochaine saison ou est-ce que tu es encore en mode réflexion à savoir ce que tu veux pour le prochain chapitre de ta carrière?
Non, comme vous le savez, il me reste un an de contrat. J'ai fait une année, comme je vous ai dit, frustrante sur le plan personnel. Je sais que voilà, ça doit être mieux, ça aurait pu être mieux. Et j'aime pas partir sur des mauvaises notes. Donc pour l'instant, je suis sous contrat avec l'Impact. Je suis bien ici, sans parler de la pandémie. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui aime partir sur une mauvaise note. Et si je dois être là l'année prochaine, et ben je serai là l'année prochaine sans problème. Et puis on verra pour le reste de ma carrière.
Je sens une possibilité de ne pas être là l'année prochaine. Est-ce qu'il y a eu des discussions ou est-ce que tu as un feeling par rapport à ça ou est-ce que pour toi, il n'y a pas de question, tu es de retour en 2021?
Non, pour l'instant, il n'y a pas de question. Je suis de retour en 2021. Après, vous savez très bien que dans le football, tout peut se passer. Je dois penser aussi à la suite de ma carrière. Il me reste un an de contrat. Faudra voir. Faudra voir. Mais pour l'instant, je suis à Montréal. Il n'y a rien de prévu.
Ligue des champions maintenant, dernière question avant de te laisser partir. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous aujourd'hui, Rudy. Je le disais tout à l'heure, c'est super apprécié. C'est quoi le feeling pour cette Ligue des champions-là? Quand la rumeur est sortie que ce serait à la mi-décembre aux États-Unis, il y avait le Mexique qui flottait dans ces rumeurs-là aussi. J'ai posé la question à Samuel Piette qui m'a dit, ouais. C'est pas accueilli à bras ouverts en ce moment dans le groupe parce que, évidemment, ça hypothèque aussi une partie de la période des fêtes à Noël. Maintenant, la posture mentale de l'équipe à l'approche de ce match-là, c'est comment?
Je vais pas vous mentir, hein. Moi j'ai pas l'habitude de mentir, moi j'étais pas pour. J'étais pas pour comme la plupart des joueurs qui ont une famille et des enfants. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas vu mes enfants, 2 mois et demi que je suis à l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Je vois personne. Donc non, j'étais pas pour. Après, on reste des compétiteurs, on est sous contrat, on est professionnel, on doit jouer ce match. C'est comme ça, ils nous l'ont mis en plein mois de décembre, donc faut pas oublier que nous, après le match, on doit rentrer en Europe. Peut-être que voilà, si on va au bout, on rentrera le 25 décembre en Europe, je ne sais pas. Donc non, moi je ne l'ai pas accueilli les bras ouverts. Après, c'est comme ça, on est sous contrat, on doit le jouer ce match. Et puis à partir du moment où tu dois le jouer, eh ben, il n'y a pas de souci, on va se donner à fond, on va le préparer comme il faut le préparer. Mais c'est clair que si j'avais le choix, voilà, si on me laisse le choix, non. Je préfère être auprès de ma famille et mes enfants. Maintenant, j'ai pas le choix, je dois le jouer, je reste professionnel et on donnera tout pour passer. Il y a 3 matchs pour aller en finale, donc autant tout donner, essayer de déjà gagner ce match retour. Je pense que c'est faisable. Et d'aller au bout, parce que si on reste là jusqu'au 15 décembre pour jouer le match, et ben autant rester jusqu'au 23.
Des propos, Rudy, qui résument parfaitement ce qu'on entend depuis le début de cette pandémie-là. Tu as l'athlète d'un côté, puis tu as l'humain de l'autre, puis des fois, il y a un conflit entre la façon de voir des deux côtés. C'est tout à fait compréhensible, mais évidemment, une fois rendu là, on va vous souhaiter d'aller jusqu'au bout, puis d'avoir 3 matchs à jouer plutôt qu'un seul. Rudy Camacho, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est super apprécié.
Merci à vous, bonne journée et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
On retrouve maintenant mes acolytes Jean, Sid. On va parler des sujets chauds dans quelques instants. Mais d'abord, là, je ne sais pas ce que vous retenez des propos de Rudy Camacho, mais waouh, j'ai l'impression qu'on pourrait écrire un livre sur ce qu'il vient de nous partager. Tu sens qu'elle a été lourde cette saison-là en 2020 pour Rudy Camacho, mais pour tout le monde de manière générale. Sid, tu retiens quoi? Une ou deux choses qui te sautent aux yeux, qui te sautent aux oreilles en l'écoutant?
La lucidité dont il fait preuve sur ses performances sportives qui ont été inégales, si on peut dire, mais ensuite encore plus de lucidité sur le match contre New England, sur lequel je l'ai dit à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, moi il m'a impressionné. Genre, je pense vraiment que pour moi ça a
Ah
été
ouais.
même le meilleur joueur de l'effectif, mais qui par la suite n'avait pas assez de jus pour finir le match adéquatement. Puis c'est comme ça apparu sur la dernière action dont il n'est pas vraiment responsable que lui, mais ça a apparu. Donc il y a cette lucidité sur l'ensemble de la saison et sur le match. Je trouve que ça rejoint ce que je pense beaucoup, ce que je pense du joueur, qui a une grande intelligence. C'est vraiment, oui, il est fin techniquement, mais c'est un joueur qui est intelligent. Et ces commentaires-là me confirment dans ce que je pense. Parce que beaucoup de joueurs parfois vivent dans des illusions de ce qu'ils font et de ce qu'ils projettent. Mais sur Rudy Camacho, on est quand même assez aligné. Et ensuite, bah, humainement, cette saison de 2020, dont parfois on ne soupçonne pas à quel point elle peut être lourde pour les joueurs. Et je crois qu'on a eu un véritable exemple concret de à quel point ça affecte le moral, la motivation et le quotidien tout simplement de ces joueurs de foot. Et c'est des choses qui ne transparaissaient pas tant finalement lorsqu'on prenait connaissance des nouvelles de l'équipe et autres.
Jean?
Oui, pareil. Je crois. Attends, ça arrive juste après une discussion d'une demi-heure sur Maradona. À quel point tu te rends compte que l'humain et le sportif, ils sont collés, ils sont indissociables. Indissociables et que l'un nourrit l'autre et l'un peut perturber l'autre continuellement. Parce que il le dit, regarde, j'ai fait un match, je fais une erreur, je rentre chez moi, je suis tout seul. Et puis voilà, tu vois l'image complètement, tu te dis, bon, bah, il va passer sa soirée à ressasser ça, et puis c'est noir, quoi, complètement. Donc, tu vois à quel point c'est sain et à quel point, semaine après semaine, jour après jour, pendant plusieurs mois, c'est insoutenable.
Sid, as-tu été surpris? Moi, ça m'a pris de court un petit peu l'entendre parler du fait qu'il n'avait pas envie de quitter sur une note comme ça. Tu as une année de contrat, à moins. Lui est en train de faire des travaux à la maison. Là. Je ne sais pas s'il y a eu un dégât d'eau ou s'il est en train de s'installer. Je ne suis pas allé dans l'intimité de ses rénos à la maison. Ce sera peut-être pour une émission, ça, sur une autre chaîne l'année prochaine. Mais as-tu été surpris? Est-ce que c'est moi qui interprète un petit peu trop loin, qui cherche à lire entre les lignes? Ou toi aussi, tu entends quelqu'un qui dit, ben, ça se peut que le club décide de me chipper ailleurs. Et quand il dit, il faut que je pense au reste de ma carrière. Dans le fond, moi, ce que j'entends, puis c'est 100% de l'interprétation, là. Mais ce que j'entends, c'est si quelqu'un d'autre était pour m'offrir un contrat de 3 ans, 4 ans ailleurs, et que le club était satisfait de me laisser partir, ben, faudrait que j'y réfléchisse pour vrai. Et c'est peut-être un scénario auquel on doit s'attendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
Ah oui, tout à fait. Parmi les choses qui m'ont mis la puce à l'oreille, les travaux à la maison. Tu te dis, bon, une personne qui fait des travaux à la maison, investit et peut-être comme a envie de rester sur la durée. En même temps, le renseignement avait acheté une maison dans les 6 mois, je pense, avant son départ. Donc ça change pas. Voilà, c'est toujours des interprétations. Maintenant, on voit aussi que tout simplement, lorsqu'il part de Toronto, parce que moi c'est comme une deuxième cloche, Toronto, les Raptors, et qu'on parle du fonctionnement de la saison de 2021, il y a des considérations. Et que je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui n'embarqueraient pas dans quelque chose qui serait proche d'une saison type bulle où les équipes canadiennes devraient être sur le territoire américain. Et là, alors, on a véritablement encore une fois les conséquences de cette saison, les conséquences sur l'humain, sur le fait de voir sa famille directement. On l'a vu, l'équipe aussi, elle était quand même mieux en place quand Patrice Bernier était avec l'équipe dans les 2 dernières semaines. Ça paraît sur ce staff sur le banc. Moi, il y a un plan qui m'avait marqué quand même où je le voyais à côté de d'Apadou, de Nancy. Et tu te dis, voilà, donc comme Thierry Henry, il est entouré. Et ça, c'est des choses comme ça, avec des micro-événements qui affectent la qualité, enfin, les performances de l'équipe. Donc, je pense aussi qu'on ne s'en rend pas compte à quel point la saison 2020 le fonctionnement de la prochaine saison va affecter les décisions qui vont être prises par Olivier Renard, par Thierry Henry, et surtout par l'ensemble des joueurs. Je ne crois pas que dans une saison normale, Saphir Taider décide d'aller en Arabie Saoudite. Je n'en suis pas persuadé. Donc, c'était très intéressant. Et comme il y avait des à date, il est en contrat pour 2021. C'est sa dernière année de contrat. Donc, c'est tout à fait normal pour un joueur de foot de réfléchir à la suite. Mais oui, non, ça m'a interpellé, effectivement.
Et je te confirme, Sid, que dans une année normale, tu n'as pas un gars aussi important qui a joué autant de minutes dans une saison qui dit « Moi, j'étais pas pour jouer le quart de finale retour en Ligue des champions. » Ça te montre à quel point c'est un univers parallèle en 2020. Les gars, ça fait une semaine déjà que l'Impact a été éliminé des séries MLS. T'en parlais tout à l'heure avec cette défaite-là face aux Revs où Rudy Camacho a été utilisé comme milieu de terrain. Avant de passer à nos questions qui nous ont été posées sur Twitter, Jean, peut-être un petit commentaire sur ce qu'on a appris. En fait, est-ce qu'on a appris quelque chose sur Thierry Henry, l'entraîneur en 2020?
Oh, certainement. Certainement, on a vu quelqu'un qui débarquait avec une expérience quand même assez minime et qui, on l'a vu, je dirais, prendre la mesure du métier, hein, tout simplement, parce que là, c'est la première année entière qu'il fait à la tête d'un club. Je ne parle pas de l'équipe nationale ni de ce qu'il a vécu avec la Belgique. On a vu son apprentissage, dans sa façon dont il est allé d'abord prendre contact avec le groupe, la façon dont il a commencé à regarder un petit peu les joueurs qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe, et puis petit à petit prendre la mesure de ce qu'il avait sous la main. Et on l'a vu, et on l'a réussi en fait petit à petit. C'est qu'il y a des joueurs auxquels il a demandé d'évoluer de telle ou telle façon. Petit à petit, on l'a vu progresser et élargir son champ d'application. En partant des premiers matchs qui étaient en Ligue des Champions, où il a commencé à y aller avec un certain système, d'ailleurs, que personne n'attendait vraiment. Et petit à petit, il a commencé à donner un peu plus de responsabilité ou un peu plus d'importance à certains joueurs. Donc, c'est un processus qu'on a vécu toute l'année. Et je pense que lui aussi, il a appris des choses sur lui-même et sur la façon.
Et toi, Sid, si tu as une chose à retenir qu'on aurait appris de Thierry Henry, le coach, cette année, ce serait quoi?
Ouh, c'est une excellente question. Une seule chose.
Tu
sais pas je sais même pas par où commencer, mais effectivement, c'est sûr que il a beaucoup appris. On sent le cheminement. On a vu avec les différentes entrevues qui ont été faites en fin de saison, on sent vraiment un cheminement de la part de Thierry Henry. Donc, il a certaines certitudes, certaines valeurs, mais qui ont été soit mis à mal par la réalité d'une saison tronquée des blessures, de la difficulté de faire passer un message, de savoir adapter son message en fonction des différents profils dans son équipe. Donc on a vu ce cheminement là et je pense que ce que j'ai apprécié sur le dernier match, je le dis, je le répète, l'Impact s'est vraiment fait surclasser par une équipe qui était meilleure qu'elle, mais dans l'attitude et le comportement de l'équipe, j'ai apprécié vraiment ce que j'ai vu de l'Impact. Il y en a qui me diront que l'effort c'est le minimum. C'est pas tant le minimum maintenant dans le foot. On voit des équipes qui sont parfois battues même dès la première minute de jeu, et de voir c'est comme l'Impact qui s'est présenté avec un visage conquérant, mais à la hauteur de ce qu'ils pouvaient produire. C'est ça, ils ont donné leur maximum. Leur maximum était clairement insuffisant, mais ils ont donné leur maximum, et ça, je le donne à Thierry Henry, d'avoir su préparer, galvaniser le groupe pour une performance comme celle-ci. Ça aurait sûrement suffi contre un DC United ou contre un Inter Miami. Ça ne suffisait pas clairement contre un New England et ces autres équipes qui sont passées au tour suivant des séries. Donc, oui, un coach qui... J'ai hâte de le voir travailler dans des conditions plus normales. Il m'a donné cette envie-là. Il m'a donné cette envie de le voir travailler au centre Nutrilet avec une semaine d'entraînement, avec un match dans la semaine, avec un groupe qui est quand même plus étoffé, et de voir les résultats qu'il est capable de produire.
Tu penses que Thierry Henry va nous laisser regarder les entraînements au centre Nutrilet? Non, je te pose la question pour vrai.
Je crois que c'est obligatoire en partie de nous laisser accès. En tout cas, c'est une excellente question. Maintenant, oui, je pense que ça aussi, c'est autre chose. Il a quand même travaillé dans le huis clos. Et peut-être pas mis de mettre en place des choses qui auraient très certainement fuité, puisque on le sait, hein, comme tous les entraînements sont publics, sauf celui de la veille de match dont on a accès à 15 minutes seulement. Donc ouais, ça aussi c'est un ajustement qu'il devra prendre en considération. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura accès à ces pratiques.
Sachant que les gars sont encore en quarantaine et ne savent pas trop ce qui se passe dans les prochaines semaines, je vais prendre mon gaz égal pour les entraînements au centre Nutrilet l'année prochaine. On a le temps d'en discuter à loin de tirer la faute. Les gars, on est là avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter. Il y a Christophe Angel ou Angel, désolé si je prononce mal, qui nous demande, on va y aller avec toi, Jean, pour le recrutement de ces futurs joueurs désignés. Est-ce que l'Impact devrait suivre la tendance en dénichant des jeunes perles sud-américaines? On est obligé, c'est principalement sud-américain, là, mais ça peut être d'un peu partout dans le monde. Ou est-ce qu'on devrait continuer à forger son identité autour de joueurs provenant de ligues européennes? Bref, des joueurs établis venant d'Europe ou des jeunes joueurs à qui tu vas donner de la valeur puis éventuellement tu voudrais revendre? Qu'est-ce que tu vois s'en venir, Jean? On a un petit problème encore une fois avec Jean. Cid, on peut y aller avec toi peut-être pour répondre à cette question-là.
Écoute, c'est une ligue qui sert évidemment de tremplin pour de nombreux jeunes sud-américains, principalement des Argentins. De nombreuses équipes de la ligue en ont, qui font des différences énormes sur le terrain. Ce serait bête de se priver de ce vivier. Maintenant, j'oppose ça au propos de Louis Binks, qui disait que pour lui, un jeune qui sortait de l'Académie Tottenham, ce qu'il a vécu comme expérience sur le terrain, il n'aurait jamais pu la vivre en Europe, et que c'est aussi une destination potentielle. Et je pense qu'on a aussi le cas avec Broguillard, qui sortait de Lyon et qui n'a pas pu rentrer dans les rangs professionnels. Il y a sûrement des opportunités parmi tous ces joueurs-là qui sont ceux qui ne vont pas signer de l'Académie vers leur club professionnel, de pouvoir aussi, pourquoi pas, connaître des expériences nord-américaines sur 2 ans, 3 ans. Et je pense que, comme Kevin Gilmore l'a dit, le but de Louis Bing, c'est pas de finir sa carrière à Montréal. C'est une plus-value. Il est signé ailleurs. Là, c'est Pologne. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres qui suivront ce parcours-là. Donc, le profil doit rester le même. Je pense peut-être que pour les joueurs européens, ne pas forcément aller chercher des joueurs trop vieux. Je crois qu'il faut quand même tourner la page sur des signatures type Sagna, type Fanny, et aller chercher vraiment des jeunes. Maintenant, je pense que sur les côtés sud-américains, on peut se permettre d'aller chercher entre 24 à 28 ans et chercher les prochains, je sais pas, Pozuelo, Lloyd Hero et autres. Donc c'est ça. Maintenant, après, je suis pas trop non plus sur les passeports. T'es sur le terrain, faut que tu fasses la différence. Point.
Oui, mais il y a les réseaux de recrutement. Puis, étant donné que la MLS a une structure de recrutement, une entreprise qui est très, très enracinée en Amérique du Sud, je pense que c'est ça qui fait que le réflexe est, lorsqu'on parle de jeunes joueurs désignés, de parler de joueurs sud-américains. Mais j'abonde dans le même sens que toi. Et Christophe, moi, je pense qu'il y aura toujours des joueurs européens qu'on va aller chercher. Regarde, Rudy Camacho, il est venu ici. Je comprends qu'on lui a donné un bon salaire, mais il est venu ici à 26 ans quand même. T'sais, si tu es capable d'aller chercher des Européens dans ce range-là et des Sud-Américains, tu parlais de 24 à 28 ans tantôt, Sid, moi je pense que ça commence à être vieux. Si tu as personne, si toi tu arrives, tu repères un gars comme ça, c'est probablement parce que les autres ont décidé de passer leur tour. Peut-être y aller encore plus jeune, 20, 21 ans. Et à ce moment-là, je pense que tu as vraiment une chance de te démarquer. Sinon, écoute, les LAFC, les Atlanta de ce monde qui vont passer avant toi.
Ah, dans ce sens-là, oui. Mais cette tranche d'âge-là, moi, je la mets plus sur des joueurs dont je veux pas forcément les revoir, en fait. Je veux plus un peu
D'accord.
les à la Piatti, pas du niveau de Piatti, comprenez-moi bien, mais de ce type qu'on veut établir vraiment sur des années et dont finalement on espère que quand il a fini, il retourne en Amérique du Sud et non pas tremplin versus les Européens où j'aurais plus tendance à chercher vraiment que des joueurs tremplins, si je puis dire, et profiter vraiment du bassin nord-américain, parce qu'il faut aussi en parler, et sud-américain pour le reste.
Gaëtan Fitzpack maintenant nous demande, avec la Ligue des champions CONCACAF qui s'en vient bientôt, est-ce que le club aura sensiblement le même effectif ou est-ce qu'il y aura des changements? Là, on rappelle que c'est un match qui va jouer le 15 décembre à Orlando, match retour, puisque le premier match a été joué au Stade olympique juste avant la pandémie. C'était une défaite de 2 à 1 de l'Impact, ce qui garde la porte ouverte. Rudy Camacho le disait tout à l'heure, c'est toujours possible d'aller passer en demi-finale. Mais si on s'écarte du match, puis on regarde un petit peu l'effectif, Jean, il y a notre collègue Jérémy Filosa qui a fait l'inventaire des contrats chez l'Impact de Montréal au cours des derniers jours. Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui te frappe? Et est-ce que ça pourrait influencer le groupe qu'Henri va avoir lorsqu'on va arriver à ce match-là de Ligue des Champions?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on parle d'un match qui a lieu dans 2 semaines et demie. Hein. C'est pas dans 3 mois, là.
Ben, écoute, au niveau des joueurs qui sont, entre guillemets, une situation problématique, on parle vraiment des sans contrat, hein, Fanny, Raïtala et Corrales. Et donc, je ne pense pas forcément que c'est des joueurs qui te chamboulent complètement ton effectif. Mais pour la suite, je crois peut-être que ce qui va être plus compliqué à gérer, c'est les joueurs non protégés, puisqu'il y a encore une équipe d'expansion. Et donc, je pense que c'est Austin. Et donc, voilà. Donc, il y a une liste de joueurs non protégés. Maintenant, on peut être très stratégique. Il y a des joueurs dont le salaire est trop élevé, donc ils vont pas être considérés. Des joueurs internationaux non plus qui ne vont pas être considérés aussi pour des questions de place. Donc, il y a des façons de construire sa liste pour ne pas se faire repêcher n'importe qui. Mais oui, je crois qu'au final, c'est intéressant de voir que la structure de l'équipe va être assez similaire. Je ne crois pas forcément que l'Impact puisse récupérer des joueurs de blessures, selon les différents. Je pense que ce soit Chouanière, que ce soit comme Chaube, on l'a vu avec l'opération, Raïtala aussi. Je ne pense pas que c'est des joueurs qui vont revenir dans l'effectif. Mais non, c'est intéressant de voir que finalement. Bah après, il y aura des grandes manœuvres parce qu'il faut comprendre que 6 mois avant l'échéance d'un contrat, le joueur est libre de négocier. Il y a des joueurs aussi qui voudront sortir de ces questionnements, un peu comme Rudy Camacho, de la dernière année de contrat. Et là, il y en a quand même beaucoup qui sont dans cette cas de figure et qui vont sûrement peut-être dès janvier négocier pour partir. Donc ça aussi. Mais pour la Ligue des Champions, concrètement, je pense qu'on va avoir le même effectif.
Oui, il y a juste un cas d'exception, c'est celui de Boyan. Bon, tous les scénarios peuvent lui permettre de participer à ce match-là, mais rappelez-vous, Olivier Renard a dit il y a une date butoir. C'est comme ça que je l'ai interprété pour prendre la décision. C'est un peu comme à l'époque. En 2019, c'était le mois de mai où tu devais prendre une décision sur l'option de 2020 sur le contrat de Rémi Garde. C'est quand cette date-là pour Boyan? C'est-tu la semaine prochaine? À partir du moment où tu dis à Boyan, on ne te ramène pas l'an prochain, si c'est le cas. Avec les commentaires d'Olivier Renard et l'utilisation de Boyan sur les derniers mois, j'ai l'impression qu'on s'enligne plus vers un retour de Boyan l'année prochaine. Est-ce que c'est avec son contrat tel quel, avec l'année d'option qui était prévue dès le départ, ou est-ce que c'est après une renégociation? Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais mettons que tu dis à Boyan, ben non, on l'exerce pas cette option-là. Est-ce que lui, il va aller jouer un match le 15 décembre, sachant que le 1er janvier, il pourrait signer avec quelqu'un d'autre?
Non, je ne pense pas. Effectivement, comme il y aura ce côté de préservation, de pas prendre le risque de se blesser. Puis, il faut comprendre aussi que le tournoi, comme il est fait, c'est du 15 au 22 décembre. Donc, ouais. Une victoire qui est quand même envisageable, met l'impact dans un cycle de match infernal. Donc, non, je ne pense pas. Je m'en voudrais quand même, genre, comme de ne pas citer un joueur, donc, qui est, pour moi, vas-y, qui est vraiment la grosse énigme, finalement, ben, c'est Victor Wanyama. Parce que aujourd'hui, là il est midi, un vendredi, je ne sais pas du tout où il est, je ne sais pas du tout quelle est sa situation contractuelle vis-à-vis du club. C'est très spécial la situation de Victor Wanyama qui a véritablement, dont on n'a plus de nouvelles depuis le match du Kenya contre les Comores, il y a de ça quand même presque 10 jours maintenant. Donc c'est très spécial donc, comme la situation de Victor Wanyama, et j'ai hâte de voir si ça nous amène à des révélations. Mais là, je pense qu'on devait être en droit d'avoir des nouvelles de l'impact de Montréal sur un joueur désigné quand même, le seul aujourd'hui dans l'effectif Montréal.
Bon, tu es en train de nous dire qu'on va avoir perdu un troisième joueur désigné cette année. Ça commencera à faire compliqué, merci. Là. On termine rapidement, Sid, si tu le permets, avec la dernière question qui nous a été posée par Émile Archambault, qui nous demande, avec la blessure de Piqué au Barça, est-ce que c'est la catastrophe, un clou dans le cercueil, ou c'est pas un impact trop important pour les Catalans?
Ah non, c'est la catastrophe. Ah non, c'est la catastrophe. Je pense que genre, comme sa blessure, ça vient dans le contexte qui a commencé depuis renouvellement de Lionel Messi. On est dans une catastrophe industrielle. Jean Piqué, ça reste l'un des morceaux importants de l'âme de l'équipe, de ce que représente l'idée, de ce que représente Barcelone dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, sachant même que Samuel Umtiti n'est pas de retour avant 2 semaines, en date d'aujourd'hui, des commentaires de Koeman. Je pense que c'est une saison qui à tout point de vue s'annonce plus que compliquée pour Barcelone. On est vraiment complètement dans une fin de cycle totale. Et je suis obligé de parler du renouvellement de contrat de Guardiola à City. C'est pour 1+1, ça fait souvent 2. Donc je suis vraiment très sceptique pour l'avenir de Barcelone. Peut-être que la chance qu'il y a, c'est que d'un point de vue relatif, au Real, ça va pas forcément si bien aussi en Liga. C'est une Liga qui a l'air assez ouverte, et donc peut-être que voilà, il y aura de quoi rattraper l'Atlético pour la Liga. Mais voilà, c'est une énorme perte.
Quand on se compare, on se console. Je pense que c'est ce que je vais retenir du fait que tu as amené le Real dans cette discussion-là, alors que le Real n'a jamais fait partie de la question, Sid. Je te le rappelle. Les gars, toujours un plaisir d'avoir discuté avec vous, jazz et foot comme ça, avec une belle entrevue avec Rudy Camacho en plus pour nous donner un petit peu de carburant pour nos analyses, nos réflexions. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et merci à vous à la maison d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le faire à toutes les semaines sur rds.ca/balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées. On vous invite d'ici notre prochain épisode à nous poser vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag LDSF.